Robert Blondin ici. Bienvenue à l'aventure.
Aujourd'hui, une aventure un peu particulière. Il y a, oh mon Dieu ça, un nombre incalculable de lunes, j'ai rencontré cette femme. C'était des décennies, là on parle, sur un cargo mixte. On est en Polynésie, on part de Tahiti, on s'en va aux Marquises. Et il y a une jeune femme à bord, très jolie, jeune femme, blonde, je m'en souviens très bien, fascinante et d'une intelligence absolument exceptionnelle. On verra qu'est-ce qu'elle a fait avec cette intelligence-là après. Et en parlant avec elle, j'apprends qu'elle est à la fois pilote d'avion, océanographe, biologiste marine. C'est absolument incroyable. Et on a gardé le contact, rarement, mais à l'occasion, depuis toutes ces décennies, toutes ces lunes. Et puis on se retrouve aujourd'hui, on est au château Montebello, parce qu'elle habite la région d'Ottawa, j'habite Montréal, on s'est rencontrés entre les deux. Elle s'appelle Élisabeth Marsolier. On est encore vivants tous les deux, c'est déjà ça.
Ben oui, on est encore très en forme.
Oui, absolument. Et vous allez voir que cette femme a un parcours de vie, ben alors, tout à fait exceptionnel. Bon, écoute, on va commencer avec commençons en haut de la pile, puis on fera de la rétrospection après. Actuellement, tu fais quoi comme métier? Attachez vos trucs, les métiers, ça ne manquera pas.
Bien, en ce moment, je suis très passionnée par la nutrition et ça correspondait à un besoin que j'avais personnel. J'avais besoin de prendre soin de ma santé et donc j'ai pris quelques cours en nutrition et 24 cours plus loin et un stage. La directrice du programme de nutrition de l'institut où je prenais ces cours m'a dit, eh bien écoute, maintenant tu devrais graduer parce que eh bien, tu mérites un diplôme de nutritionniste. Donc je suis une spécialiste en nutrition holistique, en plus de ce que je fais normalement. Mais je m'intéresse toujours beaucoup au développement durable. Et le développement durable est vraiment ma passion. Et la nutrition est pour moi d'un très grand intérêt.
Le développement durable, tu y es arrivé par ta discipline d'abord de biologiste marine, puis ensuite par conviction. Parle-nous un peu de tes diplômes, on va voir avec ce que tu as fait avec, parce que c'est rare quelqu'un qui est aussi diplômé que tu l'es.
Oui, j'appartiens à une génération où, pour une femme, c'était très difficile de réussir en sciences. Donc, j'ai commencé par étudier ce qu'on me disait d'apprendre. Donc, j'ai fait un doctorat en histoire et en géographie. Et après ça, alors que je finissais mon doctorat en géographie, j'étais très intéressée par la dimension écologie de la géographie, donc de la géographie physique. Et je me suis dit, tiens, ce serait intéressant de prendre différentes unités de valeur en géographie physique. Et puis, j'étais très souvent dans le milieu de la biologie. Et finalement, j'ai fait un doctorat en biologie avec une spécialisation en écologie appliquée.
Mais tu t'es retrouvé dans l'eau. Moi, je t'ai connu dans l'eau en Polynésie. On plongeait tous les deux. T'en faisais ton métier à l'époque à Waianae, je crois. Oui.
C'est ça. J'avais remporté à l'époque un concours international de recherche mondial qui avait été proposé par la France. Et j'avais proposé la recherche que je faisais à Waianae et ça avait retenu l'attention toute spéciale du jury puisque j'avais eu le premier prix.
Et ça consistait en quoi?
c'était réfléchir sur le développement durable des écosystèmes insulaires. Les écosystèmes insulaires, c'est, pour résumer ça, c'était prendre comment voir toutes les possibilités de développement d'une île donnée, comme dans le Pacifique Sud où j'étais, et de voir aussi quelles sont les possibilités de financement de différentes structures qui s'intéressent à cette île, et de choisir ce qui correspond aux intérêts et de la population, et aux possibilités écologiques et environnementales.
De faire le pont entre les deux, là.
Voilà. Et surtout d'impliquer la population. Parce que je pense qu'il y avait une réflexion qui s'amorçait sur il faut relier le développement à la capacité des écosystèmes. Donc c'était facile de réfléchir au niveau d'une île qui est comme un laboratoire, parce qu'une île c'est limité, donc on peut déterminer toutes les possibilités de développement de l'île, par exemple. Quelles sont les réserves en eau d'une île, quel est le taux de renouvellement de ces réserves en eau, quelles sont les possibilités agricoles, quelles sont les possibilités de développement touristique. Puis, on pouvait faire comme un panorama, de dire on pourrait faire plein de choses pour le développement économique de cette île, mais en fait, il faudrait savoir que veulent les insulaires d'abord, que veulent les gens du coin, pour qu'ils acceptent et que ça leur donne la chance pour les jeunes du pays de rester dans l'île.
Ça, c'est le travail clérical que tu faisais, mais il y avait la partie très formidable du travail. Moi, je t'ai suivi, où tu te laissais dériver dans le lagon pendant des heures et c'était au travail.
Oui, c'était au départ, je n'avais pas encore de courantographe. Et donc, pour mesurer la vitesse des courants, je me suis dit, je vais me jeter dans l'eau et puis je vais mesurer la vélocité des courants. Et c'est comme ça qu'au départ, j'ai mesuré la vélocité des courants. Mais voyant ma détermination, finalement, ça a intéressé des grands laboratoires de recherche. Et je me suis retrouvée avec les meilleurs scientifiques du monde travaillant avec moi sur l'inventaire de cette île laboratoire, qui est l'île de Wainé. Et finalement, attirant l'attention des Nations Unies, qui sont venues évaluer le projet quand le projet était déjà bien avancé, voyant la participation des gens, surtout, c'était pour eux très important, d'un point de vue de développement local et régional, ils se sont dit on pourra peut-être reproduire le modèle que vous avez fait. J'ai dit le modèle, mais j'ai pas préparé un modèle. Alors là, j'ai réfléchi à comment ça pouvait marcher. Et donc, j'ai fait comme une sorte de recette de modèle sur qui était réplicable dans différentes îles du Pacifique. Pour toutes les îles hautes du Pacifique, c'est-à-dire après ça, on a encore développé d'autres modèles pour d'autres formes de.
Mais t'as beaucoup intéressé, les Nations Unies étaient intéressées à toi aussi personnellement.
Bien, après ça, en voyant comment ça marchait, on a réussi à intéresser la télévision. Alors, il y avait des équipes de télévision qui venaient filmer les enfants du pays participant à des activités de recensement avec des grands chercheurs internationaux. C'était comme les gens locaux étaient émerveillés, étaient contents, ils étaient fiers. Et donc, les Nations Unies ont dit, c'est exactement ce dont on a besoin pour d'autres îles, pour accroître la fierté locale, encourager les gens à rester sur les îles, identifier toutes les possibilités de développement et les utiliser de façon sage, parce que c'était un peu ça, en impliquant non seulement des scientifiques, mais les décideurs locaux et puis les populations locales. Ce n'était pas simplement un représentant.
Mais ça, c'est un travail qui s'est avéré fondamental dans le développement durable, dans l'analyse du développement durable.
Tout à fait, tout à fait. Et donc, plus tard, les Nations Unies m'ont demandé de me joindre à eux. Et donc, j'ai travaillé au programme des Nations Unies pour l'environnement, qui avait été décentralisé de New York à Nairobi, au Kenya. Et donc, c'était le Kenya, Nairobi était le centre mondial pour le programme des Nations Unies pour l'environnement. Il l'est toujours, d'ailleurs. Et j'ai travaillé sur... D'abord, les grands projets pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre, pour tout ce qui était côtier et marin. Donc, j'ai été responsable de ce secteur-là. Puis, ensuite, après avoir décentralisé ce programme de Nairobi à l'Afrique de l'Ouest, à Abidjan, parce que ça ne faisait pas de sens pour moi que le programme soit localisé à Nairobi, mais desserve une région qui était ailleurs. On m'a chargée de grands programmes mondiaux qui concernaient les grands écosystèmes marins, donc avec le professeur Kenneth Sherman.
Déjà une carrière internationale intéressante, mais un jour, tu t'es retrouvée au Canada où tu as fait une carrière particulièrement importante ici, là.
Oui. Oui, ben, j'avais commencé déjà au Canada. Au Canada, avant de partir, j'avais été la responsable des programmes d'interprétation du Musée de la Nature à Ottawa. Et par la suite, ben, j'étais la conseillère pour tout ce qui était conservation du sous-ministre de l'Environnement du Canada. Donc, ensuite, eh bien, je suis d'abord passée par le Québec pour rentrer au Canada. Et je suis passée...
T'es française d'origine, non?
Oui. Française et, oui, européenne, disons.
Oui, parce que toi, tu es suisse, un peu suisse, un peu française, un peu partout, oui.
Mais donc, oui, je me suis retrouvée comme présidente directrice générale du Conseil de la conservation et de l'environnement du Québec, qui est une structure très intéressante qui était une structure qui donnait des avis au ministre de l'Environnement du Québec. Et donc, ça lui permettait de prendre le pouls de tous les grands acteurs du domaine de l'environnement et du développement durable. Et donc, j'ai travaillé là pendant 2 ans et ça m'a beaucoup plu, oui.
Mais tu es vraiment une nomade de la compétence.
Oui.
C'est incroyable, ça. Parce que tu as travaillé, tu as conseillé aussi le cabinet du premier ministre en environnement et en développement durable.
C'était beaucoup plus subtil.
Bien sûr.
J'ai travaillé pour l'Université d'Ottawa et c'était un programme avec la vérificatrice générale du Canada et l'idée, le bureau de la vérificatrice générale du Canada et l'idée, en partenariat avec l'Université d'Ottawa, et l'idée était de former les conseillers du Premier ministre en développement durable. Et l'idée était de reprendre un peu ce qu'on avait fait pour le ministre de l'Environnement du Québec, c'était de trouver tous les grands acteurs de l'environnement du Canada, cette fois-ci, et de donner la chance aux conseillers du Premier ministre de les entendre. Donc, il y avait... les responsables des grandes structures environnementales, des grandes entreprises comme Alcan, où il y avait aussi des gens comme le Parti vert représenté par Elisabeth May. Il y avait vraiment tous les grands acteurs de l'environnement et du développement durable pour le Canada qui étaient présentés et pour leur donner une vision globale ben de tous les grands acteurs.
Comment tu as vécu ça, d'aller d'une responsabilisation à l'autre, à tout bout de champ? Tu as changé de job, je ne sais pas combien de fois, avec un fil conducteur, évidemment. Mais tu as changé souvent.
Oui, mais c'était, je me suis rendu compte que ça prend 6 mois pour vraiment connaître, se mettre dans une position et être vraiment utile. Et ça prend un an et demi ou 2 ans pour vraiment donner le maximum de soi. Et bien souvent, après ça, c'est un doux ronron qui s'installe et on est beaucoup moins performant, à mon humble avis. Et je trouvais ça très excitant de donner le meilleur de moi-même dans un emploi et après de passer à autre chose. Et j'avais pléthore de possibilités. Donc, c'était facile et fascinant de passer de...
Lequel de ces mandats t'as préféré?
J'ai tout aimé avec passion. C'est vraiment difficile.
Tu fais tout avec passion, de toute façon.
Oui, oui, j'ai beaucoup... Et puis, il y a aussi, je pense que j'aimais le fait d'être aussi aimée dans mon travail. Donc, il y a ça. C'est, ce qui était fascinant pour moi, c'était de faire une différence majeure. Puis après, quand les structures étaient en place, c'était quand j'avais affaire à redresser une situation, par exemple, j'y mettais tout mon cœur et en tenant compte des intérêts des participants. Et ensuite, eh bien, j'étais heureuse et les gens pour lesquels je travaillais étaient heureux de voir mon travail. Et puis, ils participaient aussi.
On revient à la notion essentielle d'utilité dans la société.
Hein. Oui, tout à fait. Tout à fait. Je me souviens d'être arrivée dans des endroits, par exemple en Afrique, où j'arrivais pour, en particulier en Afrique de l'Ouest, où j'arrivais pour faire un travail donné et où le ministre de l'Environnement m'accueillait avec plaisir, mais juste une politesse de base. Et à la fin de mon séjour, voyant le travail accompli, et bien avant que je ferme le projet, me disait « Oh ben écoutez, j'ai ma voiture, je vais vous laisser ma voiture et mon chauffeur. Je vais prendre ma voiture personnelle parce que je me rends compte que vous avez beaucoup de travail puis que vous restez tard le soir. Puis je voudrais pas que vous rentriez à votre hôtel dans de mauvaises conditions. Donc je vais vous laisser ma voiture. » Puis je trouvais que c'était vraiment très, très généreux, mais ça me faisait plaisir. C'était que mon travail était reconnu et apprécié.
Aujourd'hui, l'aventure d'Élisabeth Marsollier, on a vu à quel point cette femme était... Je pense que polyvalence, c'est pas assez comme... T'es plus que polyvalente, t'es poly, je sais pas quoi, mais t'es multiple en tout cas. T'es pas une femme singulière, t'es multiple.
Oui, peut-être. C'est-à-dire que j'ai beaucoup travaillé dans le domaine de développement de politique, mais j'ai aussi travaillé dans la gestion de programmes, puis de programmes qui étaient de programmes appliqués. Donc, j'ai travaillé à la fois au niveau conceptuel, mais aussi au niveau de changer les choses, de mettre en place des programmes qui changeaient les choses pour le bien des populations.
Est-ce que tu t'es reconnu très jeune, quand tu étais enfant, si on remonte là, étais-tu déjà consciente d'avoir des facultés intellectuelles exceptionnelles?
Bien, en fait, j'avais une mère très dure et...
On est en France?
Oui.
OK.
Et un père... présent et très gentil, mais un peu effacé, mais très cultivé. Et ma mère me critiquait en permanence, et donc j'avais l'impression d'être ni très intelligente, ni très belle. Et j'étais souvent première de la classe, et mon père me disait, quand je lui disais, ah ben, tu sais papa, je suis encore première, il me disait, et alors comment ça va à l'école? Je dis, très bien, je suis première de la classe. Et il me disait, oh ben, troisième ce serait mieux parce que c'est moins prétentieux. Donc, je ne peux pas dire que j'ai vraiment le soutien de mes parents.
T'as-tu un enfant unique?
Oui, mais par contre... j'avais un grand-père maternel qui était adorable et qui, lui, était très fier de moi et qui ironisait sur ce que disaient mes parents et disait, ben oui, s'il y a quelqu'un qui est fier de toi, c'est bien moi. Puis moi, je le dis à tout le monde. Et ça me faisait plaisir, surtout quand j'étais enfant.
Tu avais des rapports faciles avec les autres enfants?
Oui. Oui, sauf que j'avais une grande présence... dans le groupe les autres enfants copiaient ma façon de procéder, c'est-à-dire que je bachotais pas, je révisais peu pour les examens, mais j'avais une mémoire vraiment extraordinaire et donc ils préparaient pas les examens et moi non plus, ils me copiaient, donc j'étais première de la classe, donc j'apprenais rien chez moi, mais j'avais déjà tout appris à l'école. Et donc, quand arrivaient les examens, il y en avait beaucoup qui n'arrivaient pas à avoir de bons résultats et qui après m'en voulaient parce qu'ils pensaient que j'étudiais en cachette. Mais je n'étudiais pas en cachette, je n'étudiais pas. J'avais une excellente mémoire.
Tout simplement.
Tout simplement, oui. Et je l'ai toujours parce que récemment, j'ai pris 24 cours en nutrition. Et j'ai gradué d'un programme en nutrition.
Oui, parce que c'est pas tout ça pour toi de s'intéresser à la nutrition parce que tu veux mieux manger, tu deviens professionnel en nutrition.
Hein? Mais c'est parce que je suis passionnée pour ce que j'apprends. Donc, quand on m'en parle avec intérêt et passion, eh ben moi je réponds en développant mon intérêt. Et donc, 24
intérêt, cours. Intérêt, d'accord, en nutrition, mais tu deviens naturopathe aussi.
Oui.
Ben oui. Comme si c'était normal. Tu
sais. Ben oui.
Ça, c'est incroyable. Comment ça se passe quand arrive l'adolescence, puis arrivent les jeunes garçons? Est-ce que tu domines encore le groupe?
Ben, ça a été assez étonnant. Ben, j'ai épousé comme le premier venu, entre guillemets, dans ma vie, vu que mes parents se sont très vite inquiétés que je fréquente quelqu'un qui était fort heureusement quelqu'un qui éventuellement est devenu un directeur de station de sport d'hiver très connu. Mais j'ai épousé le premier garçon que j'ai vraiment rencontré dans ma vie.
Mais tu me passes vite à travers toute l'adolescence d'un coup sec, tu me balayes ça rapidement, puis tu te maries déjà?
Ben, c'était un peu ça. C'est un peu la façon dont j'ai ressenti les choses. À l'école, en France, j'avais, à l'école secondaire, j'avais des petits camarades, c'était une école mixte, un lycée mixte, mais... c'était des camarades Et puis, tout à coup, c'est un été, l'été de mes 17 ans. Je m'en vais faire un projet de développement archéologique quelque part. Là, je me rendais bien compte que il y avait que les jeunes gens me regardaient différemment, que les jeunes hommes me regardaient différemment, et que même j'intéressais des hommes beaucoup plus âgés que les garçons de mon âge. Comme j'étais assez naïve, mais si naïve que j'ai été protégée par cette naïveté, donc je passe l'été dans ce groupe-là, entourée d'hommes très gentils, et l'automne arrive et je rencontre celui qui allait devenir mon futur mari.
T'as 17 ans, là.
Oui.
C'est tôt.
C'était trop tôt. Et c'était charmant parce qu'on a grandi ensemble, parce que lui avait 20 ans. Mais c'était un grand sportif qui, lui, avait fait rien que du sport. Moi, j'étais une intellectuelle qui avait fait essentiellement des études. Finalement, il avait 3 ans de plus que moi, mais il était au même niveau que moi dans le domaine des études. Donc, j'ai quelque part poussé avec moi. Et en fait, à cette époque-là, je m'intéressais plus à l'art qu'aux sciences. Mais j'étais sur le point de passer un bac qui pouvait être aussi bien un bac scientifique qu'un bac lettres. J'étais même choisie pour passer des épreuves éliminatoires pour des concours en sciences et en lettres. Et en fait, ce qui m'intéressait, c'était d'être admise aux Beaux-Arts de Paris. J'ai été admise aux Beaux-Arts de Paris.
Mais parce que tu avais aussi ce talent-là.
Oui, mais le problème, ça a été...
Trop, c'est trop.
Mais oui, mais mes parents et mon mari n'ont pas voulu... Enfin, celui qui allait devenir mon mari quelques mois plus tard, on dit, ah ben non, tu ne peux pas aller là, ce n'est pas pour toi, tu ne peux pas aller faire des études artistiques. Et donc, j'ai choisi un compromis qui était entre les sciences et les lettres, l'histoire et la géographie. Et c'est comme ça que j'ai fait un doctorat plus tard en sciences et en histoire et géographie.
Alors, vous vous mariez, ça dure combien de temps ce couple?
Ça dure jusqu'à ce que j'ai 25 ans, parce que finalement, il était devenu... On devait découvrir le monde ensemble, voyager. On vient au Canada, au Québec, et la sœur jumelle de ma mère avait épousé un Québécois qui habitait cette île. Donc, on passe les étés ici, à cette île, et mon oncle, voyant ma passion pour les sciences, il dit « Ah ben oui, mais il y a la voie d'eau du Saint-Laurent qui est en train de se développer, tu pourrais travailler peut-être là, puis faire... » Puis mon mari ne s'intéressait pas du tout à ça. Et lui, il était comme... Il avait une idée du travail qui était plus comme plus lucratif, et plus de prestige. Donc, finalement, il est devenu le directeur d'une grande station de sport d'hiver.
En Europe.
En Europe, mais je lui ai appris le ski parce qu'il ne savait pas skier. Mais il était très courageux. Et en fait, on n'était pas encore mariés quand mon père me dit je skiais très bien et j'enseignais le ski aux enfants des écoles. Et donc... mon père me dit, écoute, ça t'intéresse d'aller faire la Vallée Blanche à Chamonix avec moi un de ces jours? Je dis oui. Donc, je sortais déjà avec mon premier mari et je dis à mon premier mari, bien sûr, tu fais du ski? Et il dit, ah oui, oui, oui. Et je lui dis, ah ben, on va faire la Vallée Blanche à Chamonix, ça t'intéresse mon père et moi? Est-ce que ça t'intéresse de te joindre à nous? Ah, il dit oui. Donc, nous voici tous les trois. On prend on avait des skis quand même, il avait des skis. Et donc, on monte, on prend le téléphérique pour aller au sommet de l'Aiguille du Midi. On descend du téléphérique et on marche sur la crête avec le vide de part et d'autre, les skis sur le dos. Et à l'époque, c'était comme ça. Et on chausse les skis. Alors, je me rends compte que mon mari ne savait pas skier, mais il avait déjà commencé à glisser. Et en fait, c'est lorsqu'il passe le premier pont de Sérac, au lieu de le prendre à la perpendiculaire, il le prend en diagonale. Et alors, il risquait de tomber dans une crevasse. Et c'était effroyable. Et je lui dis, mais qu'est-ce qu'il y a? Et bien, il dit, je ne sais pas vraiment ce qu'il y a, je voulais juste impressionner. Et donc, je l'ai littéralement descendu jusqu'en bas, petit à petit, pas à pas. Et c'est là où il s'est rendu compte qu'il avait une affinité pour le ski. Mais
il n'avait pas le choix.
Il n'avait pas le choix. Mais ça a été... Là, je me suis rendu compte que j'avais vraiment des compétences en enseignement. Et lui, un courage extraordinaire.
Et mais que j'avais de la patience. Les chemins se sont divisés parce qu'il était plus sédentaire que toi, tu voulais l'être. Tu voulais
il était
devenu
un petit bourgeois avant l'heure. Et il vivait déjà comme quelqu'un qui avait 50 ou 60 ans. Il vivait comme... il s'intéressait. Et il y avait des... Je ne rentrerai pas dans les détails, je ne voudrais pas lui nuire, mais il y avait des magouilles que j'ai apprises et qui m'écœuraient. J'étais jeune et idéaliste.
Et tu l'es restée idéaliste.
Oui, je suis restée idéaliste et je me sens jeune de cœur et d'esprit. Mais c'est ça, je pense qu'au niveau éthique, il y a des choses qu'il faisait et que... Il me racontait qu'il me faisait dresser les cheveux sur la tête et ça me faisait m'indigner. Je me mettais en colère contre...
Laissons-le dans ses magots. Je veux que tu m'amènes pour rencontrer le deuxième mari, qui est arrivé beaucoup plus tard.
Oui, 18 ans plus tard. 18 ans plus tard, j'enseignais à l'Université d'Ottawa à temps partiel, à l'Institut de coopération, de développement et de coopération internationale, parce qu'entre-temps, j'avais fait, pour me détendre, tout en travaillant au gouvernement fédéral canadien, j'avais fait un diplôme d'études approfondies en développement et en coopération internationale. Donc, on m'avait donné deux cours, à donner, si je le désirais, qui était femmes et développement et environnement et développement. En fait, je voulais donner le cours environnement et développement, mais j'étais en quelque part un peu militante au niveau des droits de la femme. Et le directeur de l'institut m'avait dit, ah ben je tiens vraiment à ce que tu donnes le cours femmes et développement. Et ben, j'ai dit, mais non, je veux vraiment donner le cours environnement et développement. Et il m'avait dit, ben, tu donneras le cours environnement et développement le jour où tu auras déjà donné le cours femmes et développement. Donc, voilà.
C'est parti.
Donc, je donnais deux cours et il y avait une réunion des professeurs et des élèves de cet institut. Des élèves des gens qui avaient gradué, qui étaient déjà dans cet institut, et des gens qui allaient bientôt avoir leur diplôme, et des professeurs. Et j'avais un vieil ami qui était célibataire et qui s'ennuyait fermement et qui me dit, ah ben, t'es chanceuse d'aller à cette réunion, tu vas rencontrer des tas d'hommes fabuleux. Oh, j'ai dit, oh, non, je n'y vais pas pour ça, loin de là, j'y vais vraiment, là, ça me casse les pieds un peu, c'est vraiment à titre professionnel. Alors, il m'a dit, ben, moi, tu sais, si j'étais à ta place, ça me ferait donc plaisir. J'ai dit, veux-tu venir avec moi? Nous sommes tous invités à venir accompagner de quelqu'un, pas forcément la personne avec laquelle nous avons une relation sentimentale de longue date. Donc si tu veux, je pourrais te présenter comme un vieux copain, ce qui était vrai. Et comme ça, ben, tu vas rencontrer des jeunes femmes merveilleuses et charmantes. Et lui n'a rencontré personne, mais moi j'ai rencontré mon deuxième mari qui avait... un diplôme dans cet institut un an ou deux ans plus tôt.
Et là, il est très gentil pour toi. C'est d'origine africaine?
Oui, il a déjà la nationalité, il venait d'avoir la nationalité canadienne, donc il s'intéressait nullement il aurait pu s'intéresser à moi parce que j'étais canadienne, ou je suis canadienne, mais non, c'était vraiment, il a montré un grand intérêt à ce que j'enseignais, mais il était déjà canadien, donc oui, et il était vraiment adorable avec moi.
Oui, plus qu'adorable, il beurrait épais, comme on dit.
Ah oui, oui, oui. Il était vraiment un chevalier servant. Là, je voyageais beaucoup. Il venait m'attendre à l'aéroport avec des fleurs chaque fois que je rentrais à Ottawa. Nous habitions à Ottawa. Et il était vraiment très plaisant. Et,
c'est le grand jeu.
Oui, il cuisinait pour moi. Il cuisinait, très bon cuisinier. Il était adorable et il adorait la musique. Et on sortait beaucoup. Et franchement, je me suis très attachée à lui.
Et au point de la marier.
Au point où, quand il m'a demandé de l'épouser, j'ai accepté.
Mais.
Un bébé plus loin. Parce qu'il souhaitait avoir un enfant très rapidement. Un bébé plus loin, ben là, c'était plus du tout l'homme charmant que j'avais connu. Et il était vraiment lui-même, c'est-à-dire pas gentil du tout. et très infidèle. Et donc, finalement, la relation s'est terminée très rapidement.
Avec Élisabeth Marcellier, tous ces deux mariages, finalement, dont on vient de parler, entre les deux mariages, il y a 18 ans.
Oui.
Tu as des amants, tu as une vie amoureuse.
Oui, j'ai rencontré des hommes assez fabuleux. Quelqu'un qui qui m'a aidée finalement à m'installer indirectement ici parce que c'était un Français que j'avais rencontré à une très brillant intellectuellement, un spécialiste en énergie solaire. Et on se rencontre lors d'une conférence en Corse qui était organisée, qui était une conférence pan-européenne. Où les meilleurs éléments dans le domaine scientifique et qui pouvaient faire une différence dans les énergies renouvelables étaient réunis et j'en faisais partie. Et lui aussi, alors lui pour l'énergie solaire et moi, je pouvais m'impliquer dans différents domaines et on était formés par les meilleurs professeurs au niveau de la planète, y compris en thermodynamique, des professeurs de Stanford, et pour faire une carrière et, universitaire potentiellement dans le domaine des énergies renouvelables. Et donc, on se rencontre là-bas et on tombe éperdument amoureux. Et lui est admis à l'Université de Montréal. Et moi je suis recrutée par l'Université du Québec pour travailler à Trois-Rivières sur les impacts sur l'écosystème du fleuve Saint-Laurent de la centrale nucléaire de Gentilly. Donc, tous les deux, on est littéralement recrutés. Lui en Suisse, en fait, il était français, mais il avait fait ses universités à Lausanne. Et donc, lui d'un côté et moi de l'autre, on est recrutés par le Québec pour venir faire de la recherche au Québec.
Et ce coup de foudre a duré longtemps?
Non. Non, parce que...
Par définition, un coup de foudre, c'est pas long?
Oui, parce que finalement, il était très pratico-pratique et il rencontre quelqu'un et temporairement, et moi, ça ne me convient pas. Et donc, finalement, on se sépare. Mon premier mari vient me chercher au Québec aussi. Donc, ça fait... c'est la direction de l'université, c'est plus trop sur quel pied danser. C'était une époque assez paternaliste où l'épouse... du directeur du service de biologie était un ancienne mannequin. Donc, ah oui, puis j'ai été aussi mannequin à mes heures quand j'étais jeune.
Donc, j'ai même pas osé le dire.
Et donc, il y a une certaine connivence qui s'établit entre mon mari, mon premier mari, ce monsieur-là. Et donc, finalement, oui, mais là, je reviens en arrière. Ça, c'était le... Oui, mais c'est juste... C'est bien. Oui, parce que, donc, le directeur du laboratoire de recherche dans lequel je travaillais, il ne savait plus sur quel pied danser. Donc... Il ne savait plus s'il devait me mettre dans le premier avion pour que je rejoigne mon mari ou s'il devait continuer à renouveler mon contrat. Et donc, finalement, cette personne qui est devenue un grand ami par la suite et qui était la personne que j'aimais à l'époque, reste à Montréal et moi, je pars à Ottawa. Donc, l'un se trouve à Montréal d'abord, et moi à Trois-Rivières, puis après à Montréal et à Ottawa.
T'as eu des amours très circonstanciels, là.
Moi, je ne l'étais pas, mais c'était plutôt mon conjoint de l'époque qui était vraiment comme pratico-pratique. Et plus tard, il a travaillé pour la NASA. Il s'était marié, il était divorcé, moi aussi. Et j'étais divorcée de mon deuxième mari et lui de sa première femme. Et on s'est retrouvés à Cap Canaveral à l'époque. Il a préparé quelque chose d'extraordinaire pour ma fille avec tous les astronautes en costume pour la recevoir. Wow. C'était, ma fille était émerveillée et il l'a pris à part et il a dit, tu sais, Mélanie, j'étais très amoureux de ta maman. Je n'ai jamais su trop comment lui dire, mais j'étais vraiment très amoureux de ta maman. Et c'est pour ça que ça me fait plaisir d'organiser tout ça pour toi.
Quel sorte de bilan tu fais de ta vie amoureuse, finalement, après toutes ces années? T'as quel âge, maintenant?
Oh, mon Dieu, 68 ans.
Alors, on peut faire des bilans. À cet âge-là, on peut faire des bilans.
Oui, tout à fait. Tout à fait. Je ne sais pas. Je pense que j'ai rencontré des hommes assez fabuleux, je crois que chez moi, il y avait une grande timidité et que la plupart des grands scientifiques que j'ai rencontrés, c'est-à-dire les quelques scientifiques que j'ai rencontrés avec lesquels j'ai développé une relation sentimentale, étaient un peu comme moi, timides. Et on avait un grand sens de la conscience sociale. Et donc, finalement, l'amour pour nous passait après les responsabilités en tant qu'au travail et les responsabilités aussi en tant que familiale. Donc, chaque fois, et ça c'est vraiment, je ne peux pas parler pour eux parce que je ne suis pas à leur place, mais pour ma part, c'était vraiment ça.
Comment va ta fille? Qu'est-ce qu'elle est devenue? Qu'est-ce qu'elle devient?
Ma fille est devenue un grand scientifique aussi.
Ah bon?
Oui. Ma fille habite l'Ouest américain. Maintenant, elle habite à San Francisco. C'est une économiste très connue. Elle a fait la London School of Economics à Londres. Et puis après ça, elle a récemment, son employeur lui a permis de faire des études d'ingénieur à Berkeley. Et donc, elle s'occupe des nouveaux véhicules de transfert financier et reliés au Bitcoin et aux nouvelles monnaies virtuelles. C'est un monde assez faramineux, peuplé de jeunes personnes brillantes.
Je ne peux pas ne pas te poser la question pour les dernières dizaines de minutes de cette émission sur les problèmes écologiques de notre planète, finalement.
Oui.
Tu es tout à fait la personne à qui on peut poser la question. Est-ce que tu t'alarmes autant que la majorité des gens qui s'inquiètent à un point élevé?
Oui, j'écoutais hier une émission sur Radio-Canada qui était en conduisant, qui était sur l'éco-anxiété des jeunes. Et je trouvais ça très pertinent. J'étais navrée de voir ça. Mais ces jeunes venaient à argumenter, leur expliquer pourquoi ils étaient devenus éco-anxieux. Et je trouvais que c'est triste à dire, mais que ce qu'ils disaient était en fait qu'une pâle réflexion de la réalité des dommages écologiques que nous avons infligés à la planète. Quand j'ai commencé ma carrière, au gouvernement fédéral, universitaire, etc. Et c'était à la fin des années 70. Et c'est à ce moment-là qu'il y a eu le point de rupture entre la capacité productive de la planète et ce qu'on exigeait d'elle. C'est-à-dire qu'on a commencé à hypothéquer sur notre futur à la fin des années 70. Et progressivement, au cours des années 80, on s'est rendu, par exemple, on utilisait la capacité productive de la planète d'abord, donc jusqu'à, par exemple, le mois d'octobre, mais il y avait 2 mois où on utilisait les réserves de la planète. Mais maintenant, c'est rendu beaucoup plus grave et c'est de plus en plus sérieux. On est en train d'hypothéquer gravement le futur des générations actuelles. Et je suis assez... j'écoutais ces jeunes qui parlaient d'éco-anxiété et on leur demandait qu'est-ce qui les rendait le plus anxieux. Et ils disaient que c'était de voir les gens de notre génération, la mienne, la tienne, les gens aussi de la quarantaine et plus, qui ignorent les réalités, qui continuent à utiliser des sacs en plastique non recyclables, qui continuent à avoir des gens qui travaillent au ministère de l'Environnement et qui ont des gros 4x4, qui ont maison principale, maison secondaire hyper éclairée, des gros 4x4 et qui surconsomment. Et j'étais bien d'accord avec eux. Moi, parfois, là, quand je vais dans un supermarché pour faire des courses, puis il y a des jeunes qui empaquettent mes affaires. Si je n'ai pas des sacs pour mettre mes affaires, pour mettre mes commissions, je dis « je voudrais un sac en papier ». Chaque fois, ils me regardent interloqués, puis j'ai un petit sourire, je dis « Ah oui, je suis écolo ». Puis sourire géant dans ces cas-là. C'est, quelque part, je trouve que on devrait tous faire nos efforts, et en particulier les générations du passé, c'est triste à dire, mais oui, même en étant du passé, on peut faire une différence dans nos jours, et je continue à enseigner au niveau universitaire.
Mais t'enseignes en développement durable, oui. Y a-tu lieu encore d'enseigner ou si c'est foutu?
Oh, mais je pense que, par exemple, le dernier cours que j'ai donné en développement durable, c'était aux élèves ingénieurs en France. C'était pour l'école polytechnique de l'Université de Savoie. Je l'ai fait bien volontiers, j'étais loin de faire beaucoup d'argent avec ça, mais c'était comme une mission que je me donnais, parce que j'étais en France, et pourquoi pas au Québec, c'était parce que j'étais en France, parce que mes parents vieillissants étaient là-bas et qu'ils avaient besoin d'aide, et donc je travaillais tout en les aidant, je trouvais une audience qui était comme émerveillée. Je donnais un cours en développement durable à des élèves ingénieurs, et c'était même pas un cours obligatoire. Et l'amphi était plein à craquer. Et donc, plusieurs fois, j'avais des collègues qui attendaient pour avoir la salle, puis la salle ne les emplissait pas, puis les élèves continuaient à me poser des questions, puis j'essayais de les amener vers la sortie, mais ils me disaient, qu'est-ce que tu fais? Tu donnes un cours qui n'est même pas obligatoire. Et je disais, ben oui, mais je disais, mais ils sont passionnés. Et l'administration, rendue par la suite de l'université, a rendu les cours obligatoires. Mais au départ, c'était juste pour voir. Ils pensaient qu'il y aurait juste une poignée d'élèves qui assisteraient à ces cours. Et les jeunes sont très motivés. Pourtant, c'était des élèves ingénieurs, donc avec des programmes chargés en sciences. Définitivement, le genre d'audience auquel on ne pensait pas voir agir ainsi. Et j'étais, moi, émerveillée de voir ça, parce que j'étais heureuse de pouvoir faire une différence. J'ai donné le cours plusieurs années de suite, mais après, on m'a pris le cours parce qu'on a pensé que c'était mieux de le donner à quelqu'un de plus jeune. On a donné à quelqu'un de plus jeune qui s'en est servi comme tremplin. Et le nouveau directeur de la structure, j'ai eu l'occasion de lui parler récemment, et il me disait, si vous êtes intéressé, ça nous ferait plaisir de vous avoir à nouveau, parce que, il y a des gens qui se sont, de ma génération, de la génération juste après, qui se sont succédés pour donner le cours, mais avec une approche arriviste, c'est-à-dire, je donne ce cours comme c'est un tremplin pour faire autre chose, un peu comme autrefois, et peut-être encore maintenant, le ministère de l'Environnement était donné à des ministres juniors qui ne connaissaient pas forcément grand-chose en environnement, mais qui faisaient leur classe en environnement et qui après étaient transférés ailleurs.
Et ce vice de forme, il est aussi bien en Europe que chez nous au Canada.
Ah, tout à fait, tout à fait.
C'est pareil partout.
Je pense, oui. Je pense effectivement. Je pense même que je suis très heureuse finalement d'être venue vivre au Québec et au Canada pour la bonne raison, c'est que ici, en tant que femme, j'ai eu ma place. J'ai eu ma place rapidement, alors que en Europe. Parfois, on m'a proposé des postes alors que je revenais des Nations Unies, mais c'était jamais des choses passionnantes ou intéressantes ou à mon niveau. C'était toujours un peu moins et souvent beaucoup moins que ce que l'on aurait donné à un homme de mon envergure.
Je voudrais terminer sur une notion. Bon, tu fais les recherches que j'ai faites sur les mécanismes du bonheur chez l'être humain. Et la première caractéristique des gens heureux à travers toute l'histoire de l'humanité, c'est la disponibilité au changement.
Oui.
S'il y a quelqu'un qui a connu des changements de carrière, de relations sentimentales, de tout, oui. Géographique, hein, t'es une immigrante, etc. Comment t'as vécu avec ça? Tu t'es servi du changement comme un outil, toi, dans ta vie?
Oui. J'ai utilisé le changement comme une sorte de... Le fait de l'instabilité me poussait à rechercher une nouvelle stabilité. Donc, c'est les lois de la thermodynamique. Et donc, de créer de créer temporairement un monde personnel et professionnel intéressant, stimulant et heureux. Et donc, je ne peux pas m'en plaindre, mais c'est vrai qu'il y a un côté, dans le changement, il y a un côté inquiétant. Et là, j'espère que je vais toujours avoir cette propension à accepter le changement, à accepter le nouveau pour créer du meilleur.
Élisabeth Marsolier, merci beaucoup qu'on puisse encore se revoir après tant d'années ici. Nous sommes au château Montebello, entre Montréal et Gatineau, où tu demeures. Merci beaucoup.
Merci à toi.
À la prochaine rencontre, dans 15 ans, 20 ans, mais j'espère que c'est plutôt 15 jours ou 20 jours.
Avec plaisir.
À bientôt.
À bientôt.
Si ça vous dit, il y aura une prochaine aventure dans une semaine. À la mise en onde, Jean-Sébastien, La Liberté. Bonne semaine.